RMC, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Et nous voilà de retour, c'est RMC, il est 7h10, merci d'être avec nous, bon week-end. À suivre chez nous sur RMC tout à l'heure à partir de 8h, vous retrouverez Christian PC pour votre rendez-vous maison. 2 heures dédiées au bricolage à la maison La Déco. On parlera tout à l'heure avec Christian de cheminées et notamment des nouvelles cheminées. On n'est pas obligé d'avoir une grande maison avec un conduit pour avoir des cheminées. Aujourd'hui, il y a des petits foyers qui vous permettent même d'avoir une petite cheminée à l'éthanol, par exemple, dans n'importe quel appartement. C'est très sympa, ça crée une petite ambiance.
On peut mettre aussi, vous savez, la bûche en plastique lumineuse.
Oh non, on va pas parler de ça, j'espère que non, avec Christian. Je l'en empêcherai. Ça sera à partir de 8h et à partir de 10h sur RMC, les GG du sport. En tout cas, merci d'être là. Et bon week-end à vous toutes et à vous tous. Nous poursuivons d'ici là notre rendez-vous jardin. Deuxième partie de ce rendez-vous jardin avec Patrick Mulan, notre expert. Et pour cette deuxième partie, Patrick, on va s'intéresser au jardin méditerranéen. Il fait froid, il fait gris à Paris. Allez, on va presque entendre les cigales là, maintenant.
Oui, je pense quand on vous allez entendre l'accent naturel de notre invité, vous allez déjà vous transporter un peu vers le sud. Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas d'ailleurs, comme disait François, pour se réchauffer un petit peu, parler des jardins méditerranéens. Mais surtout parce que il y a un livre absolument superbe qui vient de sortir et qui s'appelle Jean Mus, Jardin méditerranéen contemporain, chez Ulmer. C'est un bouquin vraiment
avec des photos.
Alors les photos sont de Philippe Perdereau, qui est vraiment très 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 bon photographe de jardin. Et ouais, l'ensemble est très très bien. Mais bon, je voulais vraiment un jour dans cette émission avoir Jean Mus avec nous, parce que c'est le chantre des jardins méditerranéens. C'est quelqu'un qui en a créé beaucoup. Je vais voir avec lui tout à l'heure pour savoir si les chiffres qui sont donnés sont vrais, parce qu'ils sont tellement énormes. En tous les cas, Jean, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Je suis ravi de t'accueillir sur RMC.
Bonjour. Bonjour. Je suis d'autant plus ravi que hier j'ai décidé de vous apporter le soleil. Alors à cette heure-ci, il n'est pas encore là, mais à la fin de l'émission, vous verrez, il y aura les premiers rayons.
On va vérifier. Alors, on parie alors on lance des paris.
Pas sûr. Jean, on te crédite de 1000 à 1500 jardins. C'est un chiffre vrai ou c'est la sardine du port de Marseille?
Non, c'est pas la sardine du port de Marseille. C'est la vérité. La vie passe très vite. Et c'est déjà bientôt 50 ans que j'arpente les collines, les ports et les vallées de toute la Méditerranée et ailleurs. Et donc ça va très vite. Surtout quand on a une équipe extraordinaire comme celle que j'ai. On arrive aujourd'hui, c'est vrai, à 1500 jardins.
C'est incroyable. Alors écoutez, puisqu'on a la chance de vous avoir, on invite tous ceux qui nous écoutent ce matin à poser vos questions concernant les jardins méditerranéens. Hein, Patrick, c'est le moment ou jamais.
Ah, faut en profiter parce que Jean, c'est quand même un peu un paysagiste un peu exclusif. Il fait pas le petit jardin n'importe quoi. Il fait des grands, beaux, magnifiques jardins. Donc si vous voulez avoir un conseil avisé du maître de jardin méditerranéen, c'est le moment. Et d'ailleurs, je voudrais lui demander tout de suite, c'est quoi un jardin méditerranéen, Jean?
Ah là là, ça c'est la question qu'on m'a posée, je ne sais pas, tout le temps. Et alors la réponse est extraordinairement facile d'un côté et difficile de l'autre. Pourquoi ? La Méditerranée, c'est un ensemble de vallées, de microclimats, de caractères, de sensibilités. Ce qui fait qu'il n'y a pas une réponse unique à apporter sur le jardin méditerranéen. Évidemment, il y a une notion climatique. Quand vous partez dans le monde, on fait toujours référence aux plantes méditerranéennes, au climat doux. Mais il y a un nuancier tellement extraordinaire qu'il n'y a pas la recette précise pour tous les lieux. Et c'est là où connaître sa terre, connaître l'identité du terroir où l'on se trouve. Alors à ce moment-là, on va essayer. Je dis essayer parce que c'est un métier d'humilité. Essayer d'apporter la réponse juste, qui n'est pas évidemment pas toujours la même, mais ça c'est la passion et l'expérience.
Mais c'est quoi? C'est donc associer les textures, les couleurs. C'est vrai que il y a beaucoup de bleu en Méditerranée, hein, ne serait-ce que le ciel, les piscines, etc. Donc il faut aussi prendre en compte ces couleurs, ce bleu qui est un peu partout.
Tout à l'heure, je rebondis, Patrick.
On connaît pas Paris, hein, le bleu, on sait pas trop ce que c'est.
Patrick disait, j'ai fait de grands jardins, les grands îles. J'ai fait des jardins tout court. Ils sont grands, ils sont petits, ils sont moyens. Même s'ils sont petits, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce qu'il nous manque l'espace. Or, la difficulté, c'est de maîtriser l'espace. Alors, dans les textures, dans tout ce qui peut se trouver, évidemment, les influences méditerranéennes sont différentes du j'allais dire du nord d'Avignon. J'exagère toujours, je dis au nord d'Avignon, il se passe autre chose. Tant mieux s'il se passe autre chose. Quand on intervient ailleurs, on cherche d'abord à regarder, à être curieux, à comprendre, à s'informer. Mmh. Et la Méditerranée a ce charme fou. Outre l'accent qu'elle a, elle a quand même un patrimoine commun qui est bien cette mer. Et les influences de cette mer et des vents. Je dis toujours que le jardinier le plus extraordinaire au bord de la Méditerranée, c'est le vent.
Alors quand il s'est bien taillé le vent.
Hein. Il s'est taillé. Il suffit de le regarder. Enfin, de le regarder, oui, on peut le regarder souffler parce qu'on voit,
La forme des arbres.
Mais c'est incroyable. Alors, à ce moment-là, vous avez du caractère, vous avez de l'atmosphère, vous avez des ambiances. Alors, le caractère, souvent, il est, ça crie un peu, ça sourit, mais c'est tellement extraordinaire d'avoir du caractère.
Mais est-ce qu'on peut faire un jardin méditerranéen ailleurs?
Oui. Parce que vous disiez qu'au nord d'Avignon, c'était la limite extrême. Est-ce qu'ici à Paris, par exemple, on peut s'amuser à imaginer un petit...
On voit une petite ambiance
méditerranéenne.
Les chiffres de marché parlent d'eux-mêmes. On vend plus de plantes méditerranéennes aujourd'hui sur l'île de France que sur l'ensemble de la Côte d'Azur. Donc il y a quand même une tendance, une volonté, mais pour toi c'est une hérésie.
Moi je vais vous dire, ça c'est la notion même, j'allais dire, de l'exotisme. Ce qui me met de mauvaise humeur, mais là nous sommes entre amis, hein, donc c'est pas, on risque pas grand-chose. Quand vous voyez tous ces oliviers qui arpentent les entrées de restaurants, d'hôtels et tout ça, si nous pouvions faire parler l'olivier, moi j'ai parlé avec lui, parce que je suis souvent en Grèce et ailleurs, mais ils sont malheureux, ces braves oliviers, de se voir confinés. Alors évidemment, ils poussent. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Non, ils me l'ont dit. Donc ce côté de l'exotisme...
L'olivier parisien...
Non mais attendez, mais c'est ça, ça fait sourire les Grecs et tous les autres. Ce que je voulais simplement dire, c'est que cette notion d'exotisme, elle date pas d'aujourd'hui. Elle a toujours été d'acclimater les végétaux. Alors on vous dit maintenant le réchauffement climatique, etc. Oui, ben bien sûr, mais enfin, c'est tellement bon de prendre sa voiture, son avion, et puis d'avoir un rêve de partir dans le sud pour aller découvrir des identités végétales qu'on n'a pas à Paris, oui. Et vice-versa. Et quand je finis, après je suis trop bavard, mais... Quand on trouve ailleurs, je fais pas de jardin méditerranéen ailleurs, je fais des jardins d'inspiration. Écoutez, ça prend 2 secondes. Oui, ça se passe il y a bientôt 20 ans. Je me trouve en Allemagne et puis
c'est pas la patrie de l'olivier.
On me dit, écoutez, est-ce que vous pouvez dire venez faire notre jardin. Je dis, écoutez, je suis pas si sûr que ça parce que je suis pas l'homme vraiment de la situation. Et j'avais déjà installé une propriété dans le sud pour ces braves gens. Et puis, me dit, si c'est vous l'homme de la situation, je lui dis, non, il y a des paysagistes extraordinaires en Allemagne, prenez un paysagiste allemand. À ce moment-là, il m'a dit, non, c'est vous que l'on veut. Je dis, pourquoi moi? Je dis, parce que vos confrères sont trop germains. Donc c'est cette notion colorée du latin. Il s'agit pas de reprendre des recettes et qu'on va pas du tout. Mais il s'agit d'être quand même respectueux d'un certain savoir-faire.
Alors si on vous entend parler, ça veut dire que Patrick, un olivier au nord d'Avignon, c'est compliqué. Hein,
c'est quand même ce que je dis souvent, hein, ouais. À l'antenne. Bon,
c'est vrai.
Non mais après on va demander à Jean quel est pour lui. Justement, le critère méditerranéen.
Ouais,
bien sûr. Si on veut méditerranéiser son jardin, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Exactement. 7h19, on évoque les jardins méditerranéens ce matin. Si vous avez des questions, profitez-en les amis, on est en direct. Nous avons un vrai expert qui est là pour répondre à vos questions. 3216 ou bien jardin@rmc.fr. Et si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone. On revient dans une minute, à tout de suite.
RMC, votre jardin. RMC, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Merci d'être avec nous, 7h22, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est le jardin. Et ce matin, en compagnie de notre invité, on évoque les jardins méditerranéens. Alors écoutez, voilà, sortez du froid, fermez les yeux et imaginez ça. Voilà, on y est. Je sais même pas si les cigales qu'on entend sont des vraies cigales. J'ai l'impression que c'est des cigales en plastique, un peu électronique, hein, Patrick. Alors, on évoque les jardins méditerranéens avec notre invité Jean Mus, qui est l'un des plus célèbres paysagistes de la Côte d'Azur et qui nous accompagne jusqu'à 8h. On a Anne-Marie, Patrick, qui nous a appelé et qui a une question. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour Anne-Marie. À tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes dans les Landes, hein? C'est ça?
Pardon?
Vous êtes dans les Landes, Anne-Marie?
Oui, j'habite à Biscarrosse, dans les Landes.
Bon, alors je sais pas si
on peut presque faire des jardins
considère que on peut faire des jardins méditerranéens dans les Landes.
Alors ma question est celle-ci. J'ai des lauriers roses depuis quelques années. J'ai un petit souci. Les premières années, ça fleurit, c'est très joli, etc. Et les années qui suivent, je n'ai pas de fleurs. Par contre, ils ont un aspect très sympa. Ils sont très verts, etc. Mais je ne sais pas pourquoi cette floraison ne se refait pas. On m'a dit qu'il fallait les tailler, ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait une taille même un peu courte parce que beaucoup de feuilles avaient bruni avec l'hiver, etc. Effectivement, ils sont très bien repartis. Je vous précise qu'ils sont en pot, dans des contenants assez larges, mais en pot quand même, pas en pleine terre. Et voilà, mon souci est de savoir si je vais pouvoir les conserver longtemps et surtout s'ils vont refleurir, parce que c'est quand même bien dommage.
Bah normalement, notamment à Biscarrosse, ça fleurit quand même très bien le laurier rose. C'est une plante qui a pas besoin de beaucoup d'eau. Alors, le problème, c'est que si vous avez des années qui sont extrêmement pluvieuses, la plante, elle brunit un peu comme vous avez expliqué. Les lauriers roses, ça fleurit sur du bois de l'année. Donc le fait de les tailler, c'est bien parce que vous les conservez un tout petit peu compacts. Sinon, je vais demander à Jean quel est le secret du laurier rose.
Il y a un laurier rose dans les Landes.
Si,
Jean.
Non, mais l'orient rose, très bien. L'orient rose,
il y en a beaucoup autour de chez nous. Hein,
bien
il y en a
sûr,
énormément.
Mais bien sûr. Vous l'avez taillé à quelle époque, votre l'orient rose?
Écoutez, je l'ai taillé si j'ai bonne mémoire, j'ai dû le tailler en fin d'hiver.
J'étais sûr que vous alliez me raconter cela. J'étais sûr. Alors souvenez-vous, si vous pouvez le tailler après la floraison, au mois de septembre, fin août, septembre, on n'ose pas le faire à ce moment-là.
Mais
ma petite, ils sont tellement beaux. Voilà, c'est quand les choses sont belles, on n'ose pas les toucher.
Absolument. Donc,
mais pour les rendre encore plus belles, il faut savoir un peu vous taillez fin août, au plus tard début septembre, pour qu'il ait le temps de repousser. Comme l'a dit Patty, qui va repousser sur le bois de l'année. Mais absolument, c'est ce bois de l'année qui va refaire à ce moment-là. Si vous le taillez au printemps, mais comment voulez-vous que, qu'en deux mois, il fasse des pousses, il donne des fleurs, il y arrive plus, le petit. Deuxièmement, sur le pot, vous comprenez que, même si le contenant est grand, allez, mettez-lui un peu d'engrais quand même de temps en temps. Vous savez, pas attention. Pas de l'engrais que pour faire des feuilles, parce que si on se trompe sur l'engrais,
d'azote.
Voilà, c'est tout.
Alors, je vais vous dire, pour le commerce jardin, si vous mettez par exemple de l'engrais tomate ou de l'engrais fraisier sur les lauriers roses, vous aurez des résultats assez corrects, parce que ce sont des engrais qui sont plus forts en potasse et en phosphore qu'en azote, et c'est ce qu'il faut leur donner.
D'accord. Et à partir de quand peut-on commencer à mettre l'engrais?
Donc, au départ de la végétation, on laisse dormir les plantes en hiver. Donc en hiver, on les nourrit pas généralement, et on va les faire repartir après.
Alors bien. Est-ce qu'on les couvre pendant l'hiver? Enfin, tout au moins, nous avons des gelées pas très très fortes, mais ça arrive quand même. Est-ce qu'à ce moment-là, il vaut mieux les couvrir, etc.?
Moi, je pense jusqu'à moins 5, ça tient très bien. Laurier rose, même en pot.
Écoutez, madame, apprenons une chose. Les plantes, si on les élève un tout petit peu à la dure et qu'elles souffrent un petit peu, ça va donner des résultats. Cela va donner des résultats extraordinaires. Quand on protège, c'est fini. Les plantes deviennent des assistées. Elles sont pas là pour être assistées. Elles sont là pour être luttées, pour lutter et vous donner ce qu'elles ont de meilleur de nous-mêmes. Téléphonez-nous l'année prochaine, vous allez voir. Vos lauriers vont
faire. C'est ce que nous dit souvent Patrick. Voilà. Il faut parfois faire souffrir les plantes pour qu'elles soient encore plus belles. On revient dans un instant, c'est RMC, bientôt 7h30, météo, info. Nous sommes au cœur de ces jardins méditerranéens avec notre invité jusqu'à 8h. N'hésitez pas à nous appeler, posez vos questions, 3216. À tout de suite.
Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC.
Attention Patrick, il est temps de retrouver une question flash. en moins de 2 minutes maintenant. Vous vous a engagé solennellement à répondre à la question de Michel qui habite Mandelieu. Ah, Mandelieu, ça va. Là, on est bien. On est quand même dans le sud. Dans mon jardin de la région de Cannes, j'aimerais planter des eucalyptus, Patrick. Est-ce un arbre que vous me conseillez et lequel choisir?
Bah, ça va bien, oui. Alors, c'est des plantes qui viennent d'Australie. La plupart des eucalyptus viennent d'Australie. Il y en a quelques-uns, quelques rares, qui sont malais. Mais là, ils sont très, très tropicaux, donc on peut pas les cultiver. Sur la Côte d'Azur, on cultive souvent une espèce qui s'appelle eucalyptus. Alors, on dit parfois rostrata. Son vrai nom, c'est calmadulensis. C'est difficile à se rappeler. Il est intéressant parce que il a une des plus belles écorces qui soit. Alors, c'est vrai que c'est des écorces qui sont très, très lisses, qui sont striées de gris, de brun, de rouge, etc. Et vous avez sur les eucalyptus des particularités, c'est que les jeunes feuilles, elles sont rondes et après, lorsque l'arbre commence à grandir, les feuilles deviennent longues et elles penchent et c'est très 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 agréable. Alors, les eucalyptus, il y a des gens qui les mettent en cause un petit peu parce que ce sont des plantes qui ont tendance à on va dire, rendre le sol pas stérile, mais un petit peu. Donc, sous les eucalyptus, il n'y a rien qui pousse, quoi, globalement. Mais moi, j'aime bien mettre un eucalyptus, pas une forêt d'eucalyptus, mais dans un jardin, ça le fait bien. Vous avez aussi l'eucalyptus guni qu'on trouve partout, et ça, vous pouvez même le mettre jusque dans la région parisienne, on en a, hein, qui vont très 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 bien, et qui résistent jusqu'à moins 15 degrés, qui ont les feuillages bleutés, on les appelle gommiers aussi, ces arbres-là. Nymphophila, il est encore plus résistant, il a une très très belle écorce, mais il est plus petit, hein, il fait que à peu près 5-6 mètres de hauteur, et puis vous en avez un qui pousse assez bien, qui s'appelle Eucalyptus nitens. Alors l'écorce, elle est blanc-jaunâtre, elle est un peu grise et avec des feuilles aussi opposées, glauques, lorsqu'elles sont jeunes. Voilà, des arbres qu'il faut mettre dans son jardin.
Voilà, et en plus vous avez la bonne odeur. 32-16 pour toutes vos questions.
RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 7h35, c'est RMC. Merci d'être avec nous et bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver, bien sûr, comme chaque samedi. Nous passons ensemble cette matinée, 6h-10h, le week-end des experts, chaque samedi et dimanche, avec Le Jardin, jusqu'à 8h, Patrick Menal m'accompagne, et puis ensuite, ce sera la maison. Et Christian PC, on vous prépare un spécial nouvelle cheminée. Elles sont décoratives, esthétiques, design, faciles à installer, et elles chauffent aussi, ces nouvelles cheminées. Elles peuvent fonctionner à l'éthanol, elles peuvent même être électriques. On peut les installer dans tous les foyers. On en parlera tout à l'heure avec Christian et en compagnie de nos invités. Mais pour l'instant, on se réchauffe aussi d'une autre manière. On descend dans le sud et on évoque avec notre invité les jardins méditerranéens, Patrick.
Oui, à l'occasion de la sortie du livre Jean Muse, Jardin méditerranéen contemporain chez Ulmer, un livre que je vous conseille vraiment pour Noël. D'abord, c'est un très beau livre.
Oui,
alors, donc,
c'est vrai.
Faire un beau cadeau. Et en même temps, effectivement, on va se prendre un tout petit peu de chaleur et de douceur. Alors, on a quelqu'un qui nous appelle. Et là, ça va faire plaisir à Jean. Enfin, peut-être pas.
Oui, parce qu'on va parler d'Olivier, Jean. Attention. Allez, on sait pas trop où il va atterrir, cet Olivier-là. Bonjour, Pierrette.
Bonjour à vous trois.
Bonjour, bonjour.
J'ai énormément de chance. Ça fait des années que j'essaie de vous avoir tous. Impossible.
Eh bien, voilà. Ça y est.
Ça y est, c'est fait.
C'est la bonne.
Oui, j'habite près d'Aix-en-Provence.
Oui.
À Gardanne. Je vais avoir mon fils qui va avoir ses 50 ans. Et je voudrais, une fois que je serai plus là, qu'il ait un souvenir de sa maman. Il a un très, très beau domaine à Digne-les-Bains. Je ne sais pas quoi lui offrir comme arbre ou un olivier ou autre chose. Mon fils me dit, il gèle beaucoup, maman. Il faut faire très attention pour l'olivier.
Alors, un olivier à Digne-les-Bains. Allez, est-ce que c'est bien digne, tout ça, Jean?
Oui, ah, il a le sourire.
Exactement, plein d'eau.
Bonjour, chère madame.
Bonjour.
Si vous savez comme c'est. C'est délicat ce que vous êtes en train de nous raconter, parce que c'est une histoire de mémoire aussi bien d'Olivier et une histoire familiale et d'identité. Ça, c'est formidable, bravo. Alors la deuxième chose, c'est que vous savez, à Digne et les alentours de Digne, il y a plein de microclimats, je les connais bien. Il y a des variétés d'oliviers là-bas qui résistent facilement à moins 10, moins 12, mais il faut prendre une variété locale.
Chez un pépiniériste local.
Chez un pépiniériste local.
Un olivier qui a été arraché en Espagne.
Pas du tout, certainement pas. Et ça, vous allez trouver là, vous allez rechercher ce pépiniériste et vous trouvez un coin un peu protégé, bien drainé. Vous allez le planter au printemps, comme ça il n'aura pas
à
subir
l'hiver.
Et s'il arrive à bien s'en sortir la première année, vous verrez qu'il vivra très longtemps et qu'il sera la meilleure mémoire de cet arbre nourricier et de nos racines, à vous, à l'olivier et à moi, de la Méditerranée.
Jean, vaut mieux prendre un petit olivier ou un olivier déjà adulte?
Un pichon, pas trop petit, mais un pichon. Les pichons dans le sud, on dit le petit, c'est affectif et ça dit bien ce que ça veut dire. Il aura le temps de se faire, de s'adapter, et il aura donc une longue vie.
Mais trop petit, on a quand même plus de risques d'avoir des problématiques d'adaptation à l'hiver, notamment. Il vaut mieux peut-être un arbre qui a déjà, je sais pas, 5-6 centimètres de tronc.
C'est ça, tout à fait. Il faut déjà que ce qu'on appelle le côté ligneux commence bien à prendre le dessus, que l'écorce soit faite. On prenait des oliviers qui ont 8 à 10 ans. Voilà. 8 ou 10 ans, vous êtes tranquille.
Oui, c'est un pitchoun, mais pas un bambin.
Ah oui. Pitchoun, oui. Enfin, cela dit, pour 8-10 ans, un olivier,
c'est un bébé encore.
Oui.
Ah oui.
Ça vit combien d'oliviers?
Il y en a qui ont plus de 1000 ans.
Oui, voilà. Bon, bah, enfin, cela, non, c'est.
Ne le répétez pas. J'ai eu la chance de bouger en Palestine des oliviers estimé à 3000 ans.
Oh,
quand vous avez à bouger ces choses-là, alors vous allez dire, mais pourquoi vous les bougez? Vous avez dit pourquoi vous les bougez, évidemment. Mais vous savez, on peut se poser les questions pourquoi. Eh bien, quand vous bougez un olivier qui a 3000 ans, vous bougez l'histoire. Et là, vous avez une émotion extraordinaire. Ils sont tous repartis parce qu'on l'a fait dans de bonnes conditions, à la bonne saison. Il a un caractère, une vivacité. Quand je dis vivacité, l'olivier qui est un arbre nourricier, il a envie de vivre. Et pour bien vivre, il faut qu'il reste dans son milieu. Alors à Digne, chère madame, il va tenir le coup et vous irez voir. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alziari ou quelque chose comme ça. C'est un pépiniériste local qui, outre faisant de la bonne huile, parce que c'est important, on va vous donner un olivier qui sera la mémoire pour votre fils.
Et qui va être adapté au lieu, c'est ça qui est important. C'est vrai, la base du paysagiste, enfin du jardinier, c'est d'adapter les plantes au lieu où elles vont pousser. On peut pas intégrer n'importe quoi. On a envie toujours. Moi, je vois quand je vais dans le Midi, les gens ils me disent ah tiens, je mettrais bien un mirabelier ou je cultiverais bien des endives, etc. On a toujours envie de faire ce qu'on peut pas.
Oui, c'est je sais pas si c'est la propension des hommes à vouloir bousculer les choses. En tout cas, la nature, ça se bouscule pas, parce que le dernier mot, c'est toujours elle qui l'a. Mmh. Et tant mieux. Et tout à l'heure, j'écoutais ce que Patrick nous disait sur l'eucalyptus, qui était tout à fait juste. Cher monsieur, parce que je sais que vous êtes encore là. L'eucalyptus est un seigneur. Alors, si vous vous trompez sur la variété, il va devenir le dominant de tout votre jardin. Alors, où vous avez un grand jardin, et il y a une proportion, ça va. Si c'est un petit jardin, ça sera épouvantable. Mais à ce moment-là, vous avez un sauveur, qui s'appelle l'Eucalyptus populus. Vous savez, c'est les fleuristes. Vous êtes à Mandelieu. Mandelieu, c'est la limite du Tanneron, où il commence à y avoir des terres un peu schisteuses, qui sont tout à fait acceptables. Au contraire, l'Eucalyptus, comme le mimosa, les adore. Et à ce moment-là, vous prenez un eucalyptus populus pour le feuillage, un peu glauque, un peu bleuté. Il deviendra pas trop grand et vous vivrez longtemps avec lui.
Nous avons Daniel qui nous a appelé au 3216. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Daniel.
Bonjour Daniel.
Bonjour. Donc j'aimerais vous poser une question, parce que j'aimerais acquérir un amandier. Est-ce que possible de savoir si dans ma région je pourrais le planter?
Région?
C'est la Picardie dans l'Oise.
Oula.
Le problème de l'amandier, c'est que ça fleurit extrêmement tôt. Et je crains que dans la Picardie, ça va pas être terrible. Jean, l'amandier, c'est un arbre de ta région, c'est pas un arbre de la Picardie.
Écoutez, d'abord, c'est un arbre qui pousse très bien dans les milieux calcaires. Sa floraison, vous savez, quelquefois il arrive à fleurir vers le 15 janvier. 15-20 janvier, alors quand vous avez des gelées précoces, vous n'aurez jamais eu l'amande. Donc quelle déception pour vous et surtout pour l'amandier.
Oui, lui, c'est lui le pire, en fait.
Non, mais c'est ça.
C'est lui qu'il faut plaindre, finalement.
C'est ça. Donc,
non.
Descendez un peu dans le sud de temps en temps, ça vous fera du plaisir. Et puis
Daniel, mettez un cerisier, serez ravi. Éventuellement, un prunier, si vous préférez. Mais dans les arbres fruitiers à noyaux, c'est plutôt les deux qui vont mieux dans cette région que l'amandier. Et là, on est plutôt pour réserver sur vraiment le midi.
Vous vouliez planter un amandier, pourquoi Daniel? Parce que c'est un arbre qui vous plaît, c'est ça?
Oui, j'adore justement ses fleurs, et puis je l'apprécie bien cet arbre-là, et puis je voulais l'essayer parce que justement j'ai des pépiniéristes qui en vendent, donc je me suis dit peut-être que ça allait tenir, quoi.
Ouais. De toute façon, on peut pas vous empêcher de tenter, mais si vous essayez vraiment l'amandier,
les pépiniéristes dans votre région, c'est ça?
Oui, ils en vendent, et ouais. J'ai vu, ils en vendaient de l'auto-fertile, et puis quelques-uns qu'il faut associer, en fait. Donc justement, je ne savais pas s'il fallait que je prenne un auto-fertile ou associer plusieurs.
Patrick et Jean, comment se fait-il que des pépiniéristes vendent des amandiers en Picardie? C'est normal ou pas?
Parce qu'il y a toujours une demande. Je disais tout à l'heure...
Non, mais il y a une demande, mais après, d'accord, mais est-ce qu'il y a un résultat?
Non, mais attendez, il ne faut pas confondre le commerce et le bon sens, quoi, globalement. Le commerce, c'est faire du business. Donc, si vous avez de la clientèle, les gens vendent. Et on voit régulièrement, et moi je me bats contre ça aussi, en région parisienne, au printemps, vous avez le rayon pépinière des jardineries, il y a plus de 50% de méditerranéennes. Dedans, vous avez des végétaux qui peuvent tenir. Vous avez, par exemple, des camérops, des choses comme ça, ça peut tenir, même des lauriers roses. Et puis, vous avez des polygalas, vous avez des plantes qui ont... De toute façon,
ils n'ont aucune chance de tenir, de passer l'hiver, en fait.
Mais on vous dit, mais les gens aiment bien, ils achètent, etc. Bon, ok. Moi, je veux bien ça, mais c'est vrai que dans une réflexion de développement durable, c'est pas
Jean.
Mais mon cher Patrick, ça prend une seconde. L'histoire se passe il y a 7 ou 8 ans. Vous voyez la Côte d'Azur, vous voyez Cannes. Et puis au bord de la mer, je vois des gens qui font des plantations. Ils plantent des bouleaux. Des bouleaux. Alors que j'arrête ma voiture. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites? Et on me dit, on plante. Je dis, oui, mais vous plantez quoi? Le type me dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je dis, non, mais qui êtes-vous? Je dis, non, je suis personne. Je dis, mais j'ai l'impression que vous plantez une plante qui va pas être heureuse. Mais ça ne vous regarde pas, on fait ce qu'on veut. Voilà. Là, vous avez la réponse. Dans le marché, en général, j'allais dire que l'exotisme, c'est quelque chose qui fait vendre. Alors il s'agit pas d'être contre le commerce, il s'agit d'être près des plantes. C'est quand même tout à fait autre chose. Et quand on a la chance d'avoir des défenseurs, des gens de bon sens, des gens qui aiment les plantes, c'est pas difficile. Il y a les droits de l'homme, et ben il y a les droits de la plante, comme il y a les droits de l'arbre. Ça veut dire comme ils peuvent pas s'exprimer. Eh bien, il faut bien qu'il y ait des défenseurs, un peu comme nous et comme bien d'autres, parce qu'il y a plein de gens...
Oui, mais les défenseurs, ça devrait être justement les pépiniéristes, et pas les clients qui, eux, forcément, ne s'y connaissent pas beaucoup, non? C'est presque un peu malhonnête de vouloir vendre un amandier dans une région où on sait qu'il aura une chance sur deux de crever au bout de 2 ans.
Non, mais François, combien de fois avez-vous été chez un marchand de vêtements, par exemple, et vous essayez quelque chose qui manifestement vous va pas, et on vous dit, oh là, vous êtes formidable avec ça. C'est la même chose. C'est-à-dire que globalement, la vente, oui, commerce, c'est de vous faire acheter. Ce que veulent les gens, c'est que vous fassiez votre chèque ou votre carte bleue. Après, alors, bien entendu, hein, je généralise et je devrais pas, parce qu'il y a énormément de gens qui font aussi très bien leur métier et qui vont vous conseiller et qui vont vous orienter là où il faut. Après, derrière ça, je dis pas non plus que les pépiniéristes de la Picardie qui font des amandiers sont pas des gens bien, mais globalement, il faut à ce moment-là dire à son client, attention, vous pouvez peut-être l'avoir comme un arbre d'ornement, peut-être pour quelques années, oui, peut-être pas pour très longtemps. Comme disait Jean tout à l'heure, ne rêvez pas, vous n'allez pas faire une récolte d'amandes, etc. Et moi, je voulais dire à Daniel, si vous voulez absolument cet amandier, trouvez-lui l'endroit le plus abrité possible, de manière à ce que, puisque c'est une floraison ultra précoce, il soit pas exposé au vent froid, etc. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça allait pas? J'en sais rien. Le plus près de la maison aussi, mais en plein soleil, parce que ça a besoin de soleil. Enfin, vous voyez, il y a plein de conditions. Après, on en connaît, hein, des gens qui réussissent des trucs incroyables. Des plantes, elles devraient pas être là, et puis elles sont belles, parce qu'il y a un microclimat. Jean, il parlait de ça tout à l'heure par rapport au midi méditerranéen, mais il n'y a pas que la Côte d'Azur qui a le microclimat. Il y en a partout.
On revient dans un instant, messieurs. 7h47, c'est le week-end des experts, c'est le jardin. Et on visite en compagnie de notre invité les beaux jardins de la Méditerranée. Et puis, on voit que vous êtes très nombreux à poser des questions. C'est tant mieux, continuez. À tout de suite.
RMC, 6h-8h, votre jardin. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan.
Voilà le week-end des experts, le jardin, et on évoque les jardins méditerranéens en compagnie de notre invité. On découvre donc ces beaux jardins du sud de la France. On a pas mal de questions, pas mal de réactions. Et on a notamment Johnny qui nous dit « Dire que les oliviers ne sont pas adaptés au climat au-dessus d'Avignon est une ineptie, messieurs. Il y a des champs d'oliviers immenses à Nyons qui produisent une huile d'olive à hausser de grande qualité et des olives excellentes à manger à table. »
Non mais c'est vrai, mais c'est pas ce qui a été dit. Il a été dit que le jardin méditerranéen, dans le concept du jardin méditerranéen de la Côte d'Azur, s'arrêtait
au nord d'Avignon. Mais voilà, les oliviers dit, peuvent aller plus loin.
Les oliviers, ça pousse au nord d'Avignon.
Non mais attendez, on va pas faire la petite guerre de la route, c'est d'Atikatata, mais évidemment que ça pousse. Écoutez, j'ai travaillé dans ce coin souvent et j'y ai planté des oliviers. C'est une image. Les gens de la Méditerranée parlent souvent par image. Quand je dis le nord d'Avignon, le plateau de Nyons et autres, tout ça, on sait parfaitement la qualité des olives
De Nyons.
Tout le monde les connaît. C'était simplement dans un. Ce que j'ai dit, c'est dans un concept.
Voilà.
Et vous le retrouvez si vous allez vous promener, même en Allemagne ou en Belgique, et que vous trouvez des oliviers, c'est ce que je veux dire. Si vous les voyez, ils sont chétifs et malheureux. Voilà. C'est contre ça que je fais la remarque au nom de l'olivier.
Jean-Patrick, Martine a un bougainvillier. Bon, maintenant, on va savoir où il est, ce bougainvillier. C'est parce que c'est quand même la question. Bonjour, Martine.
Oui, bonjour.
Bonjour, Martine.
Je suis à Brison-les-Oliviers, près du lac d'Aix-les-Bains.
Aix-les-Bains.
Oui, Aix-les-Bains. Et c'est vrai qu'on a un temps, mais un peu privilégié à Brison. Hein, c'est pour ça qu'on appelle Brison-les-Oliviers.
Ah, oui.
Et j'ai un bougainvillier que je rentrais chaque hiver, qui devenait tout blanc. Hein, donc j'ai mis du produit sur les branches, c'était tout blanc. Je l'ai coupé, je l'ai mis vers mon jardin, sous un auvent, impeccable, il est magnifique. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que je fais pour l'hiver? Parce que je l'ai mis dans mon salon, il fait 21, est-ce qu'il va tenir le coup?
Dans votre salon à 21 degrés, il va perdre toutes ses feuilles, il va se dessécher, et il va avoir un mal de chien à tenir pendant l'hiver, ouais. À moins que vous ayez une grande baie vitrée, que vous puissiez le coller... contre la baie vitrée, parce qu'en plus, dans la maison, il manque énormément de lumière.
Oui.
Nous, on arrive à les garder en véranda avec une température qui doit être plus basse, parce que en hiver, en pot, les bougainvilliers, bon, 8-10 degrés, c'est pas mal dans la nuit. Hein. Après, quand je dis 8-10 degrés, c'est la température basse. Après, ça peut remonter dans la journée.
Mmh.
Bon, sur un olivier qui est pas dans la, pardon, sur un bougainvillier qui n'est pas dans la condition normale de culture, la chute des feuilles, elle est normale. Et c'est pas ça qui le tue. Donc, il rentre en dormance complètement.
D'accord.
Et il
se recroqueville.
Voilà. Il redémarre au printemps. Après, les plantes qui subissent ce genre d'agression-là, et même ça arrive en pleine terre sur la Côte d'Azur, quand il fait parfois un coup de froid, paf, les feuilles tombent. Sur la Côte d'Azur, ils vont refleurir. Quand ils sont en pot, moi j'ai remarqué qu'ils ont du mal après à refleurir quand la saison elle a été un peu agressive. Jean, qu'est-ce que tu en penses?
Non, c'est tout à fait juste. En tout cas, chaque fois qu'ils perdent leurs feuilles, c'est un bon signe. C'est presque un signe de vitalité. Ça veut dire que le mécanisme de la chute des feuilles, il fonctionne. Donc la plante, elle réagit. Donc il faut pas s'inquiéter. Ensuite, eh bien, chère madame, vous voyez bien que c'est le problème du stress. Nous sommes tous pareil, on rêve de mettre des végétaux dans des conditions... et je dis le « on rêve », parce qu'avoir son bougainvillier, ça c'est le truc le plus extraordinaire. Mais on les stresse énormément. Donc, ils sont pas toujours...
Au top,
et vous pouvez pas attendre. Alors, trichons un tout petit peu. Changeons le bougainvillier toutes les années ou toutes les deux années, ça fera le bonheur des pépidéris, mais surtout le vôtre, parce qu'il faut pas se priver des rêves de voyage.
De se faire plaisir,
mais bien sûr.
En effet. Mmh.
Mais honnêtement, vous avez quelle température minima, Martine?
Là, on a 5.
Non, pas en ce moment, mais d'une manière générale, en hiver.
En général, on n'a jamais moins de 2 à Brison. moins de 2. Il faut vraiment qu'il fasse un hiver très froid. Alors là, je protège tout, les lauriers.
Mais oui,
mais moi, on n'a jamais un hiver très froid.
Mais honnêtement, moi, ce que je ferais, c'est que je tenterais le coup. C'est-à-dire, je laisse plutôt dehors que de le mettre dans la maison. Et au cas où, vous écoutez, ça c'est ce que je dis tout le temps, vous écoutez bien la météo. Si on vous annonce un gel, là, vous lui mettez un petit pyjama, comme dit François, avec un voile d'hivernage. Et puis, il va tenir le coup beaucoup mieux que dans la maison où ça va être compliqué quand même.
Important, la couleur du pyjama, hein. toujours bleu. Hein,
voilà. Ou à carreaux, éventuellement, mais pas plus loin. Jean, merci. Merci d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir.
Et Patrick, on rappelle donc ce superbe ouvrage disponible depuis peu.
Je vais en dire deux mots aussi tout à l'heure sur la page Facebook. Oui. Donc Jean Mus, Jardin Méditerranéen Contemporain, c'est chez Ulmer. Et puis il y avait quand même un numéro de Les Plus Beaux Jardins avec 45 pages sur les jardins de Jean Mus. Ça, c'était le numéro 11 de cet été. Je pense qu'on doit pouvoir encore le trouver sur l'internet notamment. Donc voilà, si vous voulez retrouver toutes les merveilles que fait Jean Mus, vous les avez sur ces ouvrages.
Voilà, un parfum de Méditerranée depuis 7 heures sur RMC. Merci encore. On se retrouve samedi prochain, voilà, bien sûr. Hein,
bah j'embrasse toutes les jardinières, ma petite jardinière aussi. Et puis merci pour le cake, c'était génial.
Ah oui, le cake, Nicole, merci beaucoup. Il était très bon. Voilà, tous les pouces verts, comme on dit sur YouTube. Ou pouces bleus ou pouces verts. Oui, enfin, c'est des pouces, de toute façon. Christian PC là, salut Christian.
Mais oui, salut, bonjour François.
Et dans un instant, c'est la maison, le bricolage, la déco, avec Christian PC. Vos questions maison au 32-16, on est là après la météo et les infos. A tout de suite.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.